BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous. Jusqu'à 18h, on va vivre tous les moments clés de cette séance. Bien évidemment, il y a un titre à surveiller aujourd'hui à la Bourse de Paris. C'est une mid-cap, Compagnie des Alpes. Quelle belle publication quand même, Compagnie des Alpes, et les perspectives, notamment pour cet été, très favorables. Le titre aujourd'hui gagne plus de 6%. On va zoomer sur cette valeur Compagnie des Alpes. Et puis dans quelques minutes, Michael Nizar sera avec nous. Il rendra justice au marché dans la Bourse Cash. Ce sera à 15h40. Mais d'abord, Wall Street est en train d'ouvrir. Direction New York. New York où il est 9h30, USA Today, nos experts sont en place. John Plassard depuis les bureaux de Mirabeau, bonjour John, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Et Étienne Braque bien sûr depuis la Tour Euronext, bonjour Étienne. Comment Wall Street, Étienne, se réveille-t-il?
Bonjour à tous. Eh bien écoutez, c'est une séance dans le vert pour l'instant, une hausse timide après une séance compliquée hier, puisque malgré l'envolée de 9% de Nvidia, le Nasdaq a clôturé dans le rouge. Le Dow Jones a même vécu sa pire séance hier depuis mars 2023 avec une baisse de 1,5%. Et là aujourd'hui, l'indice Dow Jones reprend 0,2% à 39 135 points. Vous avez le S&P 500 qui est toujours en deçà des 5 300 points à 5 285 points, malgré une hausse de 0,3%, plus 0,3% également pour l'indice Nasdaq, Nvidia qui fait toujours l'actualité. Aujourd'hui, nous en parlerons dans un instant avec John Plassard. Pour l'instant, sur l'ensemble de la semaine, vous avez un S&P 500 qui cède 0,5%. Le Dow Jones perd un peu plus de 2%. C'est sa pire semaine de l'année. Quand le Nasdaq, de son côté, prend 0,3% sur l'ensemble de la semaine. Du côté des valeurs à suivre également, aujourd'hui, vous avez Workday qui est spécialiste du logiciel, notamment pour les entreprises. Titre qui perd 12% avec des prévisions qui peinent à convaincre. Et puis, un dernier d'Apple qui se distingue aujourd'hui, qui permet à l'indice Nasdaq de surperformer aujourd'hui avec une hausse de plus d'1% d'Apple après avoir perdu 2% hier. Titre qui s'échange actuellement à 188 $ et donc une ouverture en légère hausse à Wall Street avant un week-end de 3 jours puisqu'il n'y aura pas de cotation lundi aux États-Unis.
C'est un jour férié à venir lundi effectivement aux États-Unis, mais on sera quand même là, USA Today avec John lundi. Voilà, on a pris rendez-vous John, on sera là malgré tout pour parler avec peut-être un peu plus de hauteur et de distance des enjeux en ce moment autour des marchés américains. Les indicateurs du jour, vous avez notamment repéré, John, les commandes de biens durables aujourd'hui aux États-Unis.
Oui, commandes de biens durables qui se passent toujours assez bien. On est à plus 0,7% en avril, alors que le consensus pariait sur une baisse de 0,8%. Le mois précédent, on était à plus 0,8%, mais qui a été fortement révisé à la baisse puisqu'on était à 2,6%. C'est quand même le troisième mois consécutif de hausse. Et ce qui est très intéressant de noter, Guillaume, c'est que les commandes de biens d'équipement non militaires, qui est un indicateur étroitement surveillé du plan des dépenses des entreprises, eh bien, ont augmenté de 0,3% d'avril après une baisse de 0,1% en mars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Très concrètement, tous ces chiffres aujourd'hui, c'est que l'économie américaine va toujours assez bien et ça nous a été prouvé hier par les PMI manufacturiers et des services, ce qui a fait dévisser le marché hier soir.
Effectivement, cette économie américaine sacrément résiliente, sacrément dynamique, et on a un 10 ans américain à 4,5 sur un plus haut de 10 jours désormais. Le 10 ans américain, on en parlera, ce retour des petites tensions obligataires et des anticipations de baisse de taux qui se réduisent à nouveau pour la suite de l'année du côté des États-Unis. Et puis, il faut aussi suivre aujourd'hui, Étienne, l'immobilier commercial américain qui vient aussi perturber le moral des investisseurs.
En effet, vous parliez du 10 ans américain, c'est lié la remontée des taux avec des pertes importantes pour le secteur immobilier, avec forcément une remontée des taux qui fait des dégâts, John Plassard.
Oui, énormément. On savait que l'immobilier était évidemment à la traîne depuis un certain temps à cause de, évidemment, la pandémie, les travail à domicile, etc. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis, tenez-vous bien, la crise financière, la crise de 2008, les investisseurs en obligations de premier ordre adossés à des créances immobilières commerciales commence à subir des pertes. Alors c'est la banque Barclays qui relève que les acheteurs de la partie AAA, vous savez, la meilleure partie d'une obligation de 308 millions de dollars adossée à l'hypothèque d'un immeuble au centre de Manhattan, donc théoriquement il n'y a pas de risque, eh bien on récupérait moins de 3/4 de leur investissement initial, puisque le prêt a été vendu avec une très forte décote. Donc même sur du triple A où vous êtes censé recouvrer 100% de votre prêt, eh bien ici c'est 3/4. Et la banque Barclays rappelle aussi ici que les gens qui avaient leur prêt sur des tranches qui étaient inférieures, eh bien ont tout perdu ou quasiment. Donc on voit ici que sur l'immobilier commercial, on pensait que le pire était passé, mais pas du tout, ça va encore mal aux États-Unis.
Oui, ce signal sur l'immobilier commercial qu'il ne faut surtout pas arrêter de suivre, effectivement. Wall Street vient d'ouvrir, c'était il y a 6 minutes et ça se passe bien. On est en hausse sur les 3 indices américains de 0,3%, quels que soient les indices, tous progressent en ce moment de 0,3%. On va parler bien sûr d'Nvidia au lendemain de son incroyable ascension, son incroyable envolée encore hier. Que fait Nvidia aujourd'hui? Réponse dans un instant. Mais d'abord, la campagne américaine, John. On est à 165 jours de la présidentielle. Nikki Haley a fini par craquer, John. Elle annonce que finalement, malgré tout ce qu'elle avait pu dire au cœur de sa campagne des primaires républicaines, finalement, elle votera bien pour Donald Trump.
Et sa prise de parole était très très attendue puisque c'est la première intervention publique depuis qu'elle s'est retirée, comme vous l'avez dit, de la course présidentielle en mars. Et elle a dit, tenez-vous bien, que ses priorités en tant qu'électrice américaine étaient de soutenir un président, tenez-vous bien, qui soutiendrait les alliés de l'Amérique, demanderait des comptes aux ennemis, sécuriserait les frontières, soutiendrait le capitalisme et la liberté et qui réduirait la dette nationale américaine. Tout ça, eh bien, ce serait potentiellement Trump. Elle dit que Trump n'est pas parfait, mais qu'elle voterait pour lui. Pourquoi ? Parce que Biden a été, je le cite, une catastrophe pour les États-Unis. Donc on voit ici que, bien évidemment, Nikki Haley suit le président, le potentiel prochain président, donc Donald Trump. Faire très attention ici parce que potentiellement, eh bien, une partie de l'électorat de Nikki Haley pourrait aller vers les démocrates. On sait qu'elle était celle qui était la moins dure dans le camp républicain. Donc il y a une interrogation à savoir. Qu'est-ce que vont faire les électeurs de Nikki Haley?
Effectivement, on va suivre tout ça grâce à vous, ce point quotidien sur la campagne électorale américaine. Et prochain épisode, lundi, hein, puisqu'on sera ensemble lundi. USA Today sera bien ouvert lundi, même si les marchés américains, eux, seront fermés. Ce sera un très long week-end aux États-Unis. Hier, Étienne, Nvidia a fait des étincelles sur le marché américain. Qu'en est-il aujourd'hui?
Eh bien, la hausse se poursuit avec un nouveau record qui est touché pour Nvidia grâce à une hausse de 0,3% à l'instant, toujours au-delà des 1 000 $ Nvidia. John Plassard, malgré une mauvaise nouvelle aujourd'hui, notamment sur le marché chinois.
Ouais, exactement. On pensait que, évidemment, on pourrait avoir quelques prises de bénéfices, mais on a eu des informations, alors qui doivent bien évidemment être confirmées, mais que la puce destinée à l'intelligence artificielle conçue par Nvidia pour le marché chinois, je vous rappelle qu'ils font des puces qui sont moins performantes pour le marché chinois, eh bien, ferait un début en demi-teinte sous fond d'offres excédentaires qui a contraint le groupe de proposer son produit à un prix inférieur au concurrent chinois qui est Huawei. Donc ici, c'est la première fois qu'on entend une demi-mauvaise nouvelle, je dirais, mais ça n'impacte toujours pas le cours de bourse de Nvidia.
Oui, sur des nouveaux plus historiques, donc ce cours de bourse encore aujourd'hui au firmament qui vient tutoyer les étoiles, un peu plus près des étoiles aujourd'hui Nvidia. On va suivre à nouveau cette valeur au cœur de BFM Bourse tout au long de l'après-midi. L'univers des semi-conducteurs aussi, ici en Europe, connecté cet univers, bien sûr, de très très près à l'intelligence artificielle. Mais la vie, c'est aussi les burgers, surtout aux États-Unis, John. On a une véritable guerre des burgers là qui est en train de se mettre en place. Il faut nous expliquer. Il y a quelques jours, vous nous parliez de McDonald's qui annonçait un menu à 5 $, 5 petits dollars avec des petites frites à l'intérieur à partir de juin pour combattre effectivement les effets de l'inflation pour les ménages. Un menu low cost pour redevenir accessible au très très grand public. Le problème, c'est que McDonald's fait des émules et n'est plus seul à faire ce genre d'offre, John.
Oui, et on se souvient que l'annonce sur McDonald's avait fait saliver Étienne. Eh bien, tenez-vous bien, Burger King va faire aussi un menu à 5 $ et va le proposer avant juin, c'est-à-dire dans les jours qui arrivent. Et tenez-vous bien, pour 5 $, c'est-à-dire moins de 5 €, vous allez avoir un choix entre 3 sandwichs avec des nuggets, des frites et une boisson. Et ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que Burger King a déclaré que cette promotion durerait plusieurs mois. On se souvient que McDonald's avait dit que ça ne durait que le mois de juin. Et ici, on est dans une situation où, bien évidemment, les Américains, face à l'inflation, eh bien, font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Et il y a un sondage qui vient d'être publié qui dit que 78% des Américains disent que la restauration rapide est un luxe parce qu'elle est devenue trop chère. La restauration rapide, pour près de 80% des Américains, est un luxe, tenez-vous bien. Et donc, bien évidemment, c'est l'inflation.
La guerre des burgers est donc lancée après le menu à $5 de McDonald's. Avant même le menu de McDonald's, il y aura celui de Burger King donc, qui arrivera un petit peu avant. On imagine que vous êtes heureux, effectivement, Étienne, parce que le public de BFM Bourse est au courant. Étienne est un fan de burgers. Vous ne pouvez pas voir Étienne sans le voir en train de grignoter un burger ou de regarder un menu burger. Enfin, c'est absolument insensé.
Je devrais venir plus souvent à la rédaction, mon cher Guillaume. Vous me connaissez mal, apparemment.
Étienne qui circule aussi en Tesla, bien sûr, pour nous rejoindre le soir depuis La Défense, la Tour Euronext, au cœur de la rédaction. Et ce type Tesla, en tout cas, que nous tous, on suit très très près, avec une bonne raison de le faire supplémentaire aujourd'hui, Étienne.
Oui, le titre Tesla qui prend un peu plus d'1% aujourd'hui, au-delà des $560, avec pourtant une mauvaise nouvelle, John Plassard, une nouvelle fois en Chine. Il y a deux minutes, on parlait de la Chine avec Nvidia. Là aussi, c'est compliqué pour Tesla qui revoit à la baisse ses prévisions de production.
Bah exactement, de son modèle Y, d'un pourcentage de deux chiffres dans son usine de Shanghai. Ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'on a eu les données de l'association chinoise des constructeurs automobiles qui montrent que la production du modèle Y en Chine s'élevait à 50 000 unités en mars, à 36 000 unités en avril, soit une baisse respective de 18% et de 33% sur un an. 33% de production au moins en avril pour Tesla dans l'usine de Shanghai. Donc évidemment, on sait, une des raisons, c'est la compétition et la concurrence effrénée des groupes chinois qui vendent évidemment des modèles un peu moins chers. Mais ici, évidemment, à chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle, eh bien l'action monte. Et c'est le contraire lorsqu'on a une bonne nouvelle.
Merci beaucoup à tous les deux. USA Today, John Plassard, donc, qui sera avec nous à nouveau lundi depuis les bureaux de Mirabeau. Bon week-end, John. Profitez bien. Étienne Braque aussi nous accompagne depuis la Tour Euronext tout au long de l'après-midi. À tout de suite, Étienne. Et dans quelques minutes, à 16h10. Allez, valeur ajoutée, une idée de valeur en plus si vous souhaitez compléter vos portefeuilles. On sera avec l'une des meilleures gérantes actions françaises. C'est Diane Bruno pour Eleva Capital. Elle sera avec nous. Diane, c'est un privilège de l'avoir régulièrement à nos côtés dans Valeurs Ajoutées. Elle nous dévoilera cette valeur sur laquelle elle émet aujourd'hui une opinion favorable. Donc rendez-vous aux alentours de 16h10. Pour l'heure, il est 15h44, c'est la Bourse Cash. Michael Nizar nous rejoint pour Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Michael.
Bonjour Guillaume.
Michael Nizar vient aujourd'hui rendre justice. Vous êtes sûr de vouloir le faire, Michael ?
Oui.
Pour vous, et c'est votre message aujourd'hui aux investisseurs, pour vous, malgré les records des indices, il n'y a pas encore d'exubérance en bourse. Ce message, vous l'assumez ?
Oui, je l'assume. Oh.
Pas encore d'exubérance en bourse, d'après vous, alors que la volatilité semble endormie, alors que les indices sont au plus haut, vous dites, on n'est pas encore en zone d'exubérance. Qu'est-ce qui vous amène à, du coup, rester serein face à la hausse des marchés? Qu'est-ce qui vous amène à penser qu'effectivement, les marchés sont encore modérés?
Effectivement, enfin, quand on regarde l'historique récent ou sur les 12 derniers mois, les 18 derniers mois, on voit effectivement des performances boursières qui sont vraiment très enviables. Et on peut se poser la question de la soutenabilité finalement de cette performance, ce rythme de performance. Néanmoins, il nous semble en fait que les marchés restent encore porteurs, parce que quand vous regardez finalement les grands drivers, les grands facteurs finalement qui déterminent les marchés actions, vous avez d'abord le taux sans risque ou le taux 10 ans. Vous avez juste après, donc ça représente finalement le facteur macro. Vous avez un facteur micro qui représente plutôt les earnings ou la cherté en regardant notamment le price earnings, donc les PER, les multiples de valorisation. Et puis vous avez ensuite un troisième paramètre qui représente la prime de risque liée à l'incertitude géopolitique, macroéconomique, etc. Quand on regarde finalement le premier paramètre, on s'aperçoit finalement que jusqu'à présent, les bourses mondiales, notamment les indices américains, les indices européens principalement, mais aussi les économies des pays avancés, se sont particulièrement bien acclimatées finalement à un niveau de taux qui a sensiblement remonté. Quand vous regardez le coût du capital dans l'économie réelle ou quand vous regardez la hausse des taux directeurs ou la hausse des taux de 10 ans, elle a fortement remonté en l'espace de 2 ans, notamment depuis fin 21. Mmh. Et en fait, ce qu'on note, c'est qu'on a vraiment tourné le dos à l'ère de taux réel négatif. Et malgré tout, l'économie a particulièrement bien digéré finalement ce premier facteur macro, ouais, qui est la hausse des taux. Parce qu'effectivement, il y a eu une impulsion fiscale qui a été particulièrement forte, qui a représenté près de 3% finalement au maximum aux États-Unis en termes de contribution au PIB. Après, quand vous regardez le deuxième facteur, qui est plutôt lié à la microéconomie, donc les entreprises, on voit en fait que on n'est pas du tout dans la période des années 2000, où en fait dans les années 2000 vous aviez beaucoup de croissance non profitable, vous aviez des multiples de valorisation qui étaient très élevés avec des progression de cours qui allait beaucoup plus vite que la progression des BPA, des bénéfices par action. Quand vous regardez cette période, notamment qu'on peut dater depuis fin 21. Depuis fin 21, vous avez la résurgence du facteur inflationniste. Donc c'est intéressant de regarder depuis fin 21 qu'est-ce qui se passe. Eh bien en fait, vous avez notamment pour les méga caps dans la technologie, les six grandes valeurs, en fait, on voit que les price earnings, donc les multiples de valorisation, ont eu tendance à baisser de l'ordre de 7 points. Et que les bénéfices par action ont progressé de 50%. Ce qui est plus intéressant et plus sain encore, c'est quand vous regardez les 75% de la cote restante, vous voyez que finalement les multiples de valorisation n'ont pas bougé, ils sont restés plutôt stables, et les livraisons de bénéfices ont progressé légèrement de l'ordre de 2%. Donc on n'est pas du tout dans un système où finalement on est dans une exubérance, on est plutôt dans un marché qui est encore porteur et qui attend les premières baisses des taux. La vraie question, ce sera quand les baisses des taux arriveront. À ce moment-là, est-ce qu'effectivement, ces baisses des taux auront lieu parce que justement la croissance a fortement baissé, mais ça sera un sujet qu'il faudra aborder certainement dans l'année.
Ce qui est incroyable, c'est qu'en début d'année, ça paraît il y a longtemps, mais c'était pas il y a si longtemps, en début d'année, le marché misait sur 6 baisses de taux de la Fed cette année, en 2024. 6 baisses de taux, là on est à peine une baisse de taux anticipée, et pourtant les marchés, les actions sont quand même sur des records. C'est
tout à
fou
fait.
Quoi.
Et c'est incroyable. Qu'on faisait partie de ceux qui voyaient plutôt des baisses des taux plus importantes que celles qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Quand vous regardez la Banque Centrale Européenne, on est à 55-60 BP de baisse des taux. On est entre 50 et 75 BP. Et finalement, on a du mal à voir une banque centrale baisser de plus de deux fois sans que la Fédérale Réserve ne baisse ses taux. Donc ce qui veut dire que au-delà de 50 BP de baisse de la BCE, il faudra absolument que la Fédérale Réserve prenne le relais pour pouvoir justement poursuivre le cycle de baisse sur la zone euro.
Bon, il estime donc qu'il n'y a pas d'exubérance de marché malgré les records des indices. Étienne nous appelle d'ailleurs depuis la tour Euronext. La priorité, bien sûr, à la séance en direct dans les yeux, cette séance. On la regarde à travers votre regard, Étienne, depuis cette tour Euronext. Notre accès exclusif au CAC 40. Comment ça se passe cet après-midi ?
Écoutez, vous avez une nouvelle séance de consolidation avec un CAC 40 qui cède 0,2% après avoir déjà perdu 0,3% hier sur l'ensemble de la semaine. Vous avez un CAC 40 qui est négatif. Il n'y a eu qu'une seule séance dans le vert, c'était mercredi, moins 1% pour l'instant en données hebdomadaires. À noter que du côté de Wall Street, vous avez trois indices américains qui tentent de se reprendre, mais c'est compliqué. Et puis surtout, ce qui est frappant, je me répète de jour en jour, c'est les volumes d'échanges qui sont vraiment très faibles, puisque depuis le début de la semaine, vous aviez moins de 3 milliards d'euros négociés au fixing. Là, pour l'instant, vous avez 875 millions d'euros, donc des carnets d'ordre qui sont vraiment très creux, un marché qui est en manque de conviction, qui cherche un petit peu des idées et surtout un manque de catalyseur.
Manque de catalyseur, d'autant qu'on a un horizon sur les taux, effectivement, qui reste très très incertain. C'est l'objet de notre question du jour sur les réseaux sociaux, Mickaël. On va vous la soumettre, cette question, sur notre fil XBFM Bourse. Vous pouvez, vous tous qui nous suivez en direct, vous y abonner. Notre fil LinkedIn également. Pour vous, compte tenu des indicateurs de la semaine aux États-Unis, pour vous, la Fed baissera ses taux cette année une fois, première hypothèse, deux fois ou zéro fois. Mickaël, votre réponse?
Je dirais plutôt deux fois.
Plutôt deux fois qu'une. C'est l'occasion de le dire. Ouais.
Pour deux raisons. En fait, en tout cas, il y aura deux conditions qui seront un prérequis finalement pour qu'on ait cette baisse des taux. Premièrement, soit vous avez finalement une conjoncture et une demande qui commence à faiblir, soit vous avez des conditions d'emploi qui commencent à s'affadir. Donc, quand on regarde finalement le calendrier, on a juillet, on a septembre. Il nous semble que juillet, c'est encore un petit peu tôt, parce que finalement, il faudrait avoir au moins trois bonnes nouvelles sur l'inflation. Je rappelle une chose, c'est qu'en fait, quand vous regardez l'inflation, le corps PCE que regarde beaucoup la Fédérale Réserve, on est sur du 3 mois annualisé à 4,5%.
Oui.
Donc, elle ne peut pas se permettre, et contrairement à ce qu'on pensait en début d'année, elle ne peut pas se permettre de baisser ni en juin, et certainement pas en juillet, parce qu'on a un niveau de taux annualisé d'inflation qui est encore trop élevé. Mais par contre, d'ici les trois prochains mois, il nous semble qu'on aura des facteurs cycliques qui prendront l'avantage, qui prédomineront par rapport aux facteurs acycliques sur l'inflation.
Là, on a un nouvel indicateur américain cet après-midi. Ce sont les commandes de biens durables. Elles sont supérieures aux attentes. Hier, les PMI américains étaient supérieurs aux attentes. Les inscriptions au chômage inférieures aux attentes. Bref, tout converge pour l'instant sur une activité américaine encore très très forte. Peut-être une inflation collante. C'est pour ça que le marché révise peu à peu à la baisse, en tout cas ses anticipations de baisse de taux. et nos auditeurs et téléspectateurs aussi. Vous avez été nombreux à répondre sur notre fil X et notre fil LinkedIn et vous êtes une majorité de 50% estimés qu'il n'y aura pas de baisse de taux cette année de la part de la Fed. 50% d'entre vous donc estiment qu'il y aura zéro baisse de taux, 42% une baisse et à peine 8% deux baisses. Ouais, vraiment le pessimisme là-dessus, hein, sur le calendrier des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine. On y reviendra aussi avec nos économistes dans un instant. En termes d'allocation, du coup, comment est-ce que vous ajustez le tir en ce moment ?
Alors en fait, on a deux convictions fortes. La première, c'est qu'en fait, plus on va dans l'année justement avec des chiffres qui vont être de plus en plus rassurants sur l'inflation, plus on va aller dans un sens où on va trouver un cap, un niveau plafond sur les taux d'intérêt. Ça, c'est notre première conviction. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les taux 10 ans US ou européens, ça redevient assez intéressant d'acheter de la duration et donc de la sensibilité au risque de taux. Parce qu'on on trouve un cap sur les taux. Ce qu'on n'avait pas forcément comme information il y a deux mois. On se rappelle, il y a deux mois, il y avait un risque de remontée des taux. Et on a vraiment eu cette assurance de la part de M. Powell et encore récemment de M. Waller, qui va dans le sens du pivot avec prochainement plutôt des baisses des taux, mais surtout pas des hausses de taux. Donc c'est la raison pour laquelle on pense que le cap est bien sur les taux. La deuxième conviction assez forte qu'on a, c'est qu'il faut rester positif sur les marchés actions, sur l'Europe, sur les États-Unis, et progressivement, plus on s'approchera de l'imminence d'une baisse des taux, plus il faudra diversifier sa surpondération action vers les pays émergents, et notamment l'Amérique latine, parce qu'il y a un narratif intéressant sur les matières premières, et notamment les métaux industriels.
Oui, on reproche souvent aux pays d'Amérique du Sud de fabriquer trop peu de produits à forte valeur ajoutée, en revanche d'être très dépendant de matières premières, mais il y a des périodes dans le cycle où c'est plus favorable. Et vous dites, pour l'Amérique latine, là, le cycle est plus favorable en l'occurrence.
Exactement.
Bon, Michael Nizar nous accompagnait pour Edmond Rothschild Asset Management. Si vous avez trouvé Michael bon, intéressant, s'il vous a convaincu, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Parce qu'ils pourront le retrouver en replay. BFM Business, BFM Bourse, c'est en direct, bien sûr, mais aussi à retrouver en replay et en podcast sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse, puis dans la rubrique replay, c'est très très simple. Michael, merci d'être passé nous voir.
Merci Guillaume.
Le CAC 40 est toujours en repli. En ce vendredi après-midi, on perd, allez, gentiment 0,1%, une valeur qui surperforme Compagnie des Alpes. On en parlera dans un instant. Le titre Compagnie des Alpes gagne 6% en ce moment.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Cette question de Marc, tiens, un autre auditeur. Le private equity semble bien mieux parvenir à valoriser les entreprises que la bourse, nous dit Marc. Qu'en est-il du private equity en co-investissement ? Stéphane Rudzinski vient tenter de répondre. Bonjour Stéphane.
Bonjour Guillaume.
Président de Rétorès Finance, bienvenue. Il existe des fonds de private equity en co-investissement ?
Ouais, exactement, ça existe. Donc, dans l'univers du private equity, je vous rappelle que ça consiste à investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, hein. On veut les garder un certain temps, les revendre avec un profit. Généralement, ces fonds investissent en direct dans les sociétés. Et ces gérants principaux, aujourd'hui, de plus en plus, en fait, ouvrent en fait leur tour de table à des gérants partenaires qui viennent investir à côté de ces fonds principaux dans les mêmes conditions en fait que le fonds principal.
On peut donner un exemple comme ça, une illustration pour que tout le monde comprenne bien la valeur ajoutée de ces fonds co-investissement.
Ouais, bien sûr. Imaginons KKR, qui est une grosse société de gestion de private equity, qui a une vue sur une société technologique très prometteuse et qui envisage d'investir 200 millions d'euros, par exemple. KKR peut inviter autour de table, en fait, des gérants partenaires à investir 50 millions d'euros. Ces gérants partenaires vont investir exactement dans les mêmes conditions que KKR, en bénéficiant de l'expertise de KKR et exactement aux mêmes conditions de frais et de valorisation.
Pourquoi ça se développe particulièrement maintenant, en l'occurrence ?
Alors, ça se développe pour deux raisons principales, une raison de diversification et une raison réglementaire. Oui. Faut bien avoir conscience que la classe d'actifs du private equity a connu un essor colossal ces 10 dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'on post-Lehman, en 2009, le volume d'investissement dans le private equity était de l'ordre de 100 milliards d'euros. En 2022, on était proche de 600 milliards d'euros. Donc les gérants, même de gros fonds de private equity, pour diversifier leur position, ont besoin de co-investisseurs à leur côté. C'est la première raison. La deuxième raison, elle est réglementaire, parce qu'associée à cette hausse du volume d'investissement, les tickets d'investissement moyens ont beaucoup augmenté. Post-Lehman, on était sur des tickets d'investissement de l'ordre de 100 millions d'euros, 120 millions d'euros par deal. Aujourd'hui, on est sur des deals moyens de l'ordre de 900 millions d'euros. Or, ces fonds de private equity ont des ratios réglementaires à respecter, des ratios d'emprise. Et sur l'argent qu'ils lèvent, ils ne peuvent pas investir plus de 10 à 15% de l'engagement sur une participation, d'où la nécessité d'avoir des co-investisseurs à leur côté.
Et pour les investisseurs, justement, ou les co-investisseurs, et puis surtout ceux qui choisissent de mettre leur argent dans ces fonds, on rappelle de private equity en co-investissement. C'est quoi l'avantage? C'est quoi l'intérêt par rapport au private equity classique?
Alors, il y a 5 avantages majeurs, selon moi. Le premier avantage, c'est que les co-investisseurs investissent directement dans les participations aux côtés donc, de ces fonds leaders, et donc ont les mêmes performances sur les participations que les fonds. Le deuxième avantage, vraiment très important, c'est que il y a une double sélection en fait dans le choix des participations. Il y a le fonds leader qui va faire sa sélection, qui va être revalidé finalement par le fonds de co-investissement. Pour vous donner quelques chiffres pour que tout le monde comprenne bien, généralement un fonds de private equity va analyser 100 deals pour investir dans 3 deals. Le fonds de co-investissement, lui, va analyser ces 3 deals et appliquer à peu près les mêmes ratios. C'est-à-dire qu'on est sur du 3%, 2-3%. Et sur 1000 opportunités d'investissement, pour un fonds de co-investissement, finalement, il va investir sur une opportunité. Donc, c'est très, très sélectif. L'autre avantage qu'on a et qui est assez incroyable, c'est que l'argent va être déployé très rapidement, en fait, sur un fonds de co-investissement par rapport à un fonds principal. Je vais faire une analogie avec le marché de l'immobilier. Lorsque vous recherchez un appartement, vous avez 3 phases. Vous avez la période de recherche de votre appartement, qui va prendre entre 3, 4 mois, 6 mois, 12 mois. Vous avez signé votre compromis de vente. 3-4 mois après, vous allez passer à l'acte authentique. Eh bien, le fonds de co-investissement, lui, va intervenir entre la signature du compromis et l'acte authentique. Ce qui fait qu'il gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, il va déployer son argent généralement très rapidement. Il va déployer 60 à 80% de son argent en 3 à 6 mois. La totalité en 12 à 18 mois. Quand un fonds de private equity va lui débloquer son argent sur 5 ans. Ce qui fait que les multiples que vous allez avoir avec du co-investissement, généralement x2, vous allez les avoir 6-7 ans avec du co-invest et du 10 ans sur un fonds principal.
Et les frais, c'est comment par rapport au private equity normal?
Alors les frais sont généralement inférieurs. D'accord. Parce que pour deux raisons. La première, c'est que dans la mesure où vous n'avez pas toutes les équipes en fait, qui font la sélection des deals, toutes les due deals, etc., vous avez des équipes plus allégées. Et comme vous investissez en direct, vous n'avez pas de surcouche de frais.
Stéphane Rudzinski, merci beaucoup de nous avoir. Vous ne pouvez pas s'en empêcher, Fabien, notre réalisateur. Merci Stéphane. Merci. Président de Rétorès Finance. Mais ça veut dire que je suis en retard. Vous ne connaissiez pas le petit son? Il faut venir plus souvent,
je trouve
Stéphane.
Que le nouveau format, il est super.
Ah, vous aimez bien?
Ah ouais, c'est chouette. C'est dynamique, c'est super bien.
Bah, super. Merci beaucoup Stéphane pour vos encouragements. Bon. Vous devriez revenir beaucoup plus souvent et nous le dire plus souvent aussi.
Vous
à l'antenne, hein, peut-être que mon boss m'écoute. Bonjour Olivier, Arnaud, merci. Audrey. Bonsoir. Allez, à bientôt. Le CAC 40 en ce moment est en repli, moins 0,1%, alors que Wall Street progresse, plus 0,3% sur le S&P 500. On s'en parle dans un instant, à tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommeret.
C'est votre pile électrique de l'après-midi, BFM Bourse. On vous accompagne chaque jour au rythme des marchés. Bienvenue à tous, Étienne Brac, depuis la Tour Euronext, nous accompagne également la séance dans les yeux de l'intérieur. Rebonjour Étienne, comment ça se passe pour le CAC 40?
Bonjour à tous. Eh bien écoutez, malgré une ouverture en hausse de Wall Street il y a un peu plus d'une demi-heure, le CAC 40 reste dans le rouge, avec toujours une très faible volatilité pour l'instant. L'indice perd 0,3% sous les 8100 points à 8080 points et le solde hebdomadaire est malheureusement négatif.
C'est la macroéconomie qui pèse, c'est la grande revanche de la macroéconomie cette semaine. On se disait depuis quelques semaines, les entreprises prennent le pouvoir et on pensait en voir l'aspect le plus spectaculaire avec Nvidia. On se disait avec Nvidia, la hausse attendue d'Nvidia, la hausse effective d'Nvidia, on disait les indices vont décoller grâce aux entreprises. Mais non, pas du tout. Cette semaine aura marqué la revanche de la macroéconomie sur la microéconomie. C'est la macro qui pèse sur l'ambiance de marché. Aujourd'hui, on a des indicateurs américains qui font craindre une persistance de l'inflation. Hier, c'était les PMI. Aujourd'hui, ce sont les commandes de biens durables qui ressortent largement supérieures aux attentes. On va en parler bien sûr avec nos experts. On suivra aussi bien sûr Total Energy, puisque Paris restera la capitale boursière de Total Energy. Sa cotation principale restera finalement à Paris. Voilà ce qu'assure Patrick Patrick Pouyanné, alors qu'il avait plutôt dit l'inverse quand même il y a quelques jours. On tentera de démêler le pataquès autour de Total Energy dans un instant avec Thierry Gauthier depuis GSD Gestion. Et puis l'intelligence artificielle, les sœurs Williams, les stars du tennis mondial, les sœurs Williams montent au filet. On vous propose une spéciale sport business dès 17h dans moins d'une heure. Vous pourrez suivre en effet en direct et en intégralité la conférence des sœurs Williams depuis le salon Vivatech, dont nous sommes BFM Business partenaires. L'intelligence artificielle en effet monte en puissance aussi dans le sport. La présence des sœurs Williams à Vivatech apporte de la visibilité sur l'utilisation de la tech dans le sport de haut niveau. Les athlètes investisseurs représentent, tenez-vous bien, la troisième source de financement de la tech dans le sport. Et les sœurs Williams, donc en direct sur notre antenne BFM Business dans un peu moins d'une heure. Ne ratez pas ce rendez-vous à la radio, à la télé, sur nos réseaux sociaux. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
On évoquait aussi aux États-Unis la guerre des burgers avec John Plassard, Burger King qui vient tailler des croupières à McDonald's. McDonald's qui parle d'un menu à venir à 5 dollars seulement aux États-Unis face à l'inflation. En effet, un menu low cost proposé par McDonald's, sauf que Burger King va tenter de lui tailler des croupières en annonçant le même type de menu avant. C'est-à-dire que le menu de Burger King sortira avant celui de McDonald's. John nous en parlait en direct. Si vous avez raté le direct de USA Today, il est à retrouver en replay sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse, puis dans la rubrique USA Today. John Plassard donc, mais c'est Étienne Braque, son prénom et son nom. J'allais vous appeler John, Étienne. Étienne est avec nous donc. Alors que sur les marchés, on a du mal à monter au filet en l'occurrence, contrairement aux sœurs Williams, donc à écouter en direct tout à l'heure sur BFM Business à partir de 17h. Le CAC 40, au contraire, joue en fond de cours aujourd'hui, cet après-midi. Il recule de 0,3%.
En effet, sous les 8100 points, 8079 points, alors que Wall Street est dans le vert après une séance compliquée hier, notamment pour l'indice Dow Jones, qui à 22h a vécu sa pire clôture depuis mars 2023 avec une baisse de 1,5%, avec beaucoup de doutes depuis quelques jours par rapport au calendrier de baisse de taux. On l'a vu avec les minutes de la Fed mercredi soir, avec hier des données macroéconomiques qui montraient que l'économie américaine était robuste, et puis même en Europe, dans une moindre mesure, avec des données d'inflation qui remontent d'une façon plus importante que prévu. Suite à cela, vous avez l'obligataire qui freine un petit peu et puis des marchés qui sont un petit peu en manque de catalyseurs pour aller plus loin après avoir touché plusieurs records historiques, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis. À souligner que sur l'ensemble de la semaine, pour l'instant, vous avez un CAC 40 qui cède 1%, semaine négative après déjà un -0,6% la semaine dernière. Du côté des valeurs à souligner aujourd'hui dans cette séance, Renault qui prend un peu plus de 4% à la porte des 50 euros, qui continue son comeback. C'est l'une des plus fortes hausses depuis le début de l'année dans l'indice parisien, avec notamment les brokers de UBS qui voient encore beaucoup de potentiel sur la valeur. Vous avez Téléperformance qui prend 2,7% avec le groupe qui a annoncé vouloir annuler 3 millions d'actions, ce qui va forcément soutenir le cours dans les prochains jours. 106 euros à l'instant pour Téléperformance. Et puis à l'inverse, vous avez le secteur aéronautique qui perd du terrain après notamment la baisse de 6% de Boeing. Vous avez Airbus qui perd 1,5%, Safran moins 1% ou encore Thales qui perd 1,4%. Le tout donc dans une tendance négative avec un CAC 40 qui cède 0,26%, 8081 points et puis surtout de faibles volumes d'échanges, 930 millions d'euros. Rendez-vous compte, depuis lundi, à chaque fois, on était sous les 3 milliards d'euros négociés au CAC 40, ce qui historiquement n'arrive pas trop en ce moment, c'est plutôt en période estivale.
Effectivement, des volumes décidément toujours plus faibles, plus bas. Thierry Gauthier est avec nous depuis les bureaux de GSD Gestion. Bonjour Thierry.
Bonjour,
on est ravis de vous retrouver. Alors au cœur de l'actualité boursière du jour, il y a quand même l'Assemblée Générale de Total Energy. Aussi, Patrick Pouyanné précise, Thierry, que Paris finalement restera sa place principale de cotation, même s'il y aura des actions Total Energy désormais aussi à Wall Street. Ma question est la suivante, Thierry. Si le titre à Wall Street finit par attirer de gros volumes, peut-être un jour plus gros qu'à Paris, Wall Street deviendra de fait la place principale de cotation Total Energy. Et donc, une place principale de cotation, est-ce que ça se décrète ou est-ce que c'est le marché qui en décide ?
Oui, bah c'est ça. Ça se décrète pas vraiment. Je pense que la réponse est un peu dans la question, et c'est plutôt le marché qui déciderait. Alors en effet, aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de Total. C'est toujours sous haute tension avec les sujets de ESG, des hydrocarbures, et puis là, il va s'ajouter ce sujet de cross-listing, d'être listé des deux côtés de l'Atlantique. Et Patrick Pouyanné a répété que c'était pas l'idée de quitter la France. Le siège social, il restera bien en France. Mais c'est d'avoir des actions aussi cotées sur le NYSE. Alors, le choix, c'est les investisseurs qui le font. Comment est-ce qu'ils vont faire ? L'idée, c'est déjà qu'il va y avoir des plages horaires un peu plus grandes pour traiter ces actions. Parce qu'aujourd'hui, une cote à New York, des ADR quand même, mais c'est pas tout à fait les mêmes titres juridiquement. Donc c'est vrai que les actions classiques, ça sera préféré par les grands investisseurs comme les gros fonds, les BlackRock, les Fidelity, qui sont actionnaires de Total, hein, parce que il faut le rappeler, c'est un des arguments de Patrick Pouyanné, hein, c'est que la moitié de ses actionnaires sont américains, et puis qu'aujourd'hui Total c'est un groupe international qui est en concurrence frontale avec beaucoup beaucoup d'américains, et puis Shell aussi, hein, qui est le concurrent européen, qui réfléchit également à une double cotation. Donc dans cette mouvance-là, il est bien obligé de regarder le dossier. Ben voilà, ça fait beaucoup parler, comme toujours, autour de Total. Mais oui, qu'est-ce que vont regarder les opérateurs? Peut-être les frais. Ou est-ce que c'est moins cher de les acheter sur Euronext à Paris ou sur le NYSE à New York? Parce que on est quand même des financiers, hein, donc ça, les frais de négociation, ça va être beaucoup regardé. Les plages horaires qui vont être un peu rallongées. Alors ça, c'est un petit peu de, voilà. Ça va être un peu plus compliqué pour nous, gérants, analystes, parce qu'il va falloir attendre maintenant pas 18 heures pour avoir les résultats semestriels ou annuels de Total, mais la clôture de New York après 22 heures. Et puis, voilà, en revanche, on sait que les sociétés de pétrolières américaines sont bien mieux valorisées aux États-Unis qu'en France. Si jamais ça pouvait tirer à la hausse les valorisations du groupe Total, je crois que finalement, tout le monde pourra en profiter.
Est-ce que Total Energy verra sa place principale de cotation en fait évoluer selon les volumes? Si des titres, des actions Total Energy arrivent effectivement à Wall Street, et ça a été confirmé par Patrick Pouyanné, est-ce que les volumes là-bas seront forcément beaucoup plus importants sur Total Energy que sur le titre à Paris? Cette question, elle reste ouverte. On posait la question aussi à Wilfried Galland tout à l'heure pour Mon Pensier. Il nous disait, ça dépendra par exemple de la capacité du titre Total Energy à Wall Street à intégrer les ETF américains, voire les MSCI US. Et ça dépend aussi de critères juridiques, pas juste de la présence d'une action, mais critères juridiques qui vont au-delà de la présence d'une action sur le marché américain. Parce que c'est vrai, Thierry, ce qui fait le volume sur une valeur aujourd'hui, plus encore que l'investissement titre par titre des particuliers ou des gérants, ce sont les ETF, c'est la gestion passive. Et c'est là-dessus aussi que le match se jouera. C'est par la gestion passive que la place de cotation principale de Total Energy finira par sans doute se définir.
Exactement, ça va se dessiner selon tous ces critères-là, et il est bien trop tôt pour dire quel marché sera le plus liquide et sur lequel se traitera les plus gros volumes. Mais voilà, après, je pense qu'en tant qu'Européens, on aura intérêt à traiter sur Euronext en euros, les Américains auront intérêt à traiter en dollars sur le NYSE, et puis tout le monde y trouvera son compte.
Une valeur qui se distingue à la hausse aujourd'hui sur la séance du jour, le groupe a publié ses résultats hier, et alors ils sont brillants les résultats. On quitte vraiment Total Energy, on quitte les blue chips, les grandes valeurs de la cote, et on entre dans l'univers des mid-caps. C'est un magnifique univers où on voit énormément de pépites, et celle qui brille aujourd'hui, la pépite du jour, c'est Compagnie des Alpes. Le titre gagne 6%. Est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'il faut accompagner cette hausse de Compagnie des Alpes? C'est une question que nous a posée aussi Seb sur le réseau X, le fil X de BFM Bourse. Thierry.
Oui, alors c'est vrai que déjà, il y a le segment des small et mid-cap qui commence à reprendre un peu du poil de la bête, si on peut s'autoriser l'expression. Et c'est vrai que la Compagnie des Alpes, bah oui, c'est tout à fait mérité, c'est plus 6% aujourd'hui, parce que ils ont publié leur résultat d'exploitation au premier semestre, et c'est un peu au-dessus de ce qu'on attendait, de ce qu'attendaient les analystes, de ce qu'eux-mêmes avaient prévu, et tout ça grâce à la très très bonne performance des domaines skiables, qui s'élève à 254 millions d'EBITDA en hausse de 22%, avec des marges autour de plus de 50%. Donc c'est vraiment, voilà, une très très belle publication, et ça, voilà, ça montre que la stratégie, hein, d'opérer des domaines de haute altitude, ben c'est la bonne, elle finit par payer. On a vu que cette année, l'enneigement était très très bon en haute altitude et très mauvais plutôt pour les stations de basse et de moyenne montagne. Donc bah, c'est la stratégie de la Compagnie des Alpes d'opérer plutôt les domaines qui sont hauts, bah, elle paye, et ça se reflète dans les chiffres et ça se reflète dans le cours de bourse. Et oui, c'est mérité de cette hausse, parce que si on regarde bien, historiquement, les ratios de PER ont été autour de 10-12 fois. Les profits, on est toujours autour que de 7 ou 8 fois. Donc la décote est encore importante par rapport aux années pré-Covid. Hein, si on se souvient, pré-Covid, Compagnie des Alpes cotait 20 ou 21 euros. On est aujourd'hui rendu à 15 ou 16 euros seulement. Donc il y a encore un peu de place.
Oui, on voit ce titre d'ailleurs. Ceux qui nous suivent à la radio peuvent regarder aussi BFM Bourse, BFM Business à la télévision et on voit dans le mur d'images BFM Bourse ce titre en hausse sur 6 mois de 10%, sur un mois de 20%. En un mois, le titre Compagnie des Alpes a pris 20% et on gagne encore 6,5% donc aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Gauthier de nous avoir accompagnés depuis les bureaux de GSD Gestion. On reste dans cet univers des 1000 caps et tiens avec à nouveau des spéculations négatives sur Vusion Group.
Vusion Group, l'ex-SES Imagotag qui perdait plus de 15% ce matin et en effet désormais c'est une baisse de 10% à 142 €. Baisse après la publication d'un tweet de Mathieu Earl à la tête du fonds spéculatif Shadowfail. Et donc c'est un fonds spéculatif qui est connu sur la côte. Il avait notamment mis il y a quelques années en exergue les problèmes de Wirecard. Et alors là c'est une façon très particulière puisque ça se passe sur Twitter et donc via son compte Twitter Mathieu Earl laisse sous-entendre, parce qu'il ne cite pas dans son tweet Vusion Group, qu'il y a des problèmes comptables à nouveau sur Vusion Group, donc l'ex-SES Imagotag qui fabrique des étiquettes numériques que vous retrouvez dans vos magasins. Alors la société a réagi par rapport à cela, elle parle de spéculation de marché, elle dit qu'elle n'a rien à se reprocher par rapport à cette situation, qu'elle a déjà éclairci la situation à de nombreuses reprises depuis le scandale l'année dernière qui, souvenez-vous, avait fait baisser le titre de plus de 50% en l'espace d'une séance. N'empêche que dans le doute, le titre baisse aujourd'hui, surtout qu'il y a beaucoup d'aspects spéculatifs via des produits dérivés sur cette valeur, moins 10,6% à l'instant pour Vusion Group. Avec la baisse du jour, vous avez un titre qui malgré tout est en hausse de 6% depuis le 1er janvier.
Étienne Braque depuis la Tour Euronext et Diane Bruno qui se joint à nous à son tour. Valeur ajoutée, une idée de valeur en plus. Diane, bonjour.
Bonjour.
Depuis le bureau d'Eleva Capital, on est ravis de vous retrouver. Diane, une idée de valeur en plus, donc en tout cas valeur dans laquelle, pour laquelle vous forgez une opinion favorable. C'est un titre dont on ne parle pas beaucoup ici, peut-être à tort, et vous allez nous l'expliquer. Le titre... Intercos, c'est comme ça qu'il faut le prononcer, Diane ?
Exactement. Alors, vous n'en parlez pas beaucoup parce que finalement, c'est une société qui a fait son entrée sur les marchés boursiers relativement récemment, puisque c'est fin 2021. C'est une société italienne, familiale, avec une capitalisation boursière de 1,4 milliard.
C'est quoi l'intérêt d'en détenir maintenant ?
Alors, Intercos, déjà, c'est une société qui est active dans un marché intéressant puisque c'est un sous-traitant qui fabrique des produits cosmétiques pour des grands groupes comme Estée Lauder, mais aussi pour des marques qui sont actuellement montantes chez les jeunes comme Charlotte Tilbury. Et ils ont un véritable savoir-faire d'innovation dans tout ce qui est maquillage, ce qui leur permet de gagner des contrats d'outsourcing et du coup de générer de la croissance. Et alors, pourquoi aujourd'hui on s'y intéresse ? La performance du titre a été plutôt atone depuis un an, parce que le groupe a subi fin 2023 un déstockage de la part de ses grands clients avec une normalisation, on va dire, post-Covid, post-problème dans toute la chaîne d'approvisionnement mondial. Et il y a plein de secteurs qui ont été impactés. Et donc, eux, tous les clients Prestige ont beaucoup déstocké. Ils ont aussi eu malheureusement une cyberattaque début 2024 qui les a aussi impactés. Et là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Et du coup, la société va retrouver une trajectoire de croissance très intéressante à partir du second semestre. Et en plus de ça, tout ça va être générateur de marge opérationnelle, enfin de profitabilité, puisque les clients Prestige sont meilleurs pour le mix. Et du coup, le groupe va aussi retrouver des couleurs en termes de croissance opérationnelle.
La valorisation, comment vous la jugez ?
Alors, la valorisation, le groupe se paye en termes de PER 18 fois 2025 pour une croissance des profits qui va être de plus de 15% sur les deux prochaines années. Et c'est quand même 40% moins cher que, par exemple, L'Oréal, qui est l'un de ses clients. Donc, on trouve que c'est attractif.
Intercos, Diane Bruno, depuis les bureaux d'Eleva Capital. Merci beaucoup, Diane, de nous avoir accompagnés. Merci. Valeur ajoutée, le replay sera à venir dans un instant, dans quelques minutes. On est assez rapide pour la publication des replays, juste après le direct de chaque séquence. Donc sur notre application BFM Business, vous allez dans BFM Bourse, puis dans la rubrique valeur ajoutée. On va parler des chiffres macroéconomiques du jour parce que cette semaine, la macroéconomie a repris le pouvoir et on en a une nouvelle illustration cet après-midi.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Des indicateurs américains d'activité tous meilleurs qu'attendus, ce qui laisse planer le doute sur le ralentissement de l'inflation et les baisses de taux. Nouveau signe aujourd'hui, les commandes de biens durables qui sont supérieures aux attentes. Hier, c'était les PMI, puis on vient d'avoir l'indice du Michigan. Tiens, on va avoir l'analyse là toute fraîche sur l'indice du Michigan qui vient d'être publié de Michel Ruimi. Bonjour Michel, depuis vos bureaux.
Bonjour Guillaume.
Levy Capital Partners. Il nous donne quoi aujourd'hui cet indice du Michigan ? Quels enseignements en tirez-vous ?
Mais en fait, le chiffre révisé qui se situe à peu près à 69, alors que il y a 15 jours, il s'était situé à 64, est légèrement supérieur au consensus. Mais en fait, il confirme les données préliminaires, c'est-à-dire que ce qui a été surprenant au début du mois, pratiquement, c'était l'ampleur de la baisse. Elle était de 13% par rapport à la situation antérieure. Maintenant, elle est à 10%. Mais en fait, c'est que le moral des ménages s'est fortement dégradé ces derniers temps. Et il est retombé à travers cet indicateur au niveau qu'il avait atteint il y a 6 mois. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les consommateurs avaient ces derniers mois un peu réservé leur jugement parce qu'ils attendaient de meilleures situations. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment inquiets sur toute une série d'indicateurs. Et d'ailleurs, ces indicateurs, ces inquiétudes se reflètent sur les résultats trimestriels des grandes chaînes de magasins, par exemple. Macy's et Love ont annoncé une baisse plus importante de leur chiffre d'affaires au premier trimestre. Et donc, le niveau de confiance se détériore en raison de trois grands indicateurs qui sont toujours les mêmes. C'est une première des choses, une inflation qui pourrait persister. Faut pas oublier que l'inflation était à 3,4 au mois d'avril, sur un an, alors que la Federal Reserve souhaite la ramener à 2%. Le niveau des taux d'intérêt qui pourraient ne pas baisser dans les prochains mois dans ce contexte. Et puis le marché de l'emploi qui a ralenti en avril malgré avec des embauches en baisse. Et donc je dirais ça peut, tout cela amène un contexte qui fait que le moral n'est pas forcément au beau fixe. Oui. Un seul espoir, c'est que l'amélioration du contexte économique dans un contexte de tension avec la Chine.
Effectivement, et donc moral des consommateurs assez moyen aux États-Unis, c'est peut-être la seule stat un peu mitigée de ces derniers jours, parce que sinon par ailleurs, tous les indicateurs ressortent vraiment supérieurs aux attentes, si bien que le marché n'attend plus que 35 points de baisse de taux de la Fed cette année, à peine un peu plus d'une baisse de taux. Merci beaucoup Michel de nous avoir accompagné. Michel Ruimi depuis les bureaux de Levy Capital Partners. Alors aujourd'hui quand même, après les tensions d'hier sur le marché obligataire, aujourd'hui quand même, le 10 ans américain se détend un tout petit peu, on est à 4,40 en ce moment sur le 10 ans US.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
4,47 même, donc c'est vraiment une très très légère détente. Les produits structurés se vendent comme des petits pains en ce moment. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Caroline Delangue nous rejoint, responsable cross à cette solution pour Fédéral Finance Gestion. Bonjour Caroline.
Bonjour.
C'est quoi un produit structuré ?
Alors un produit structuré, c'est un instrument financier qui va offrir une alternative en termes de diversification pour un investisseur. Donc ça permet de profiter du potentiel d'un actif sous-jacent tout en calibrant le risque. Donc la performance, elle est promise, elle est délivrée via une formule, si bien que l'investisseur finalement connaît à l'avance sa performance à venir en fonction bien évidemment de l'évolution de l'actif sous-jacent. Alors l'actif sous-jacent, ça peut être beaucoup de choses, un indice action, une action, un panier d'actions, même un sous-jacent, un taux d'intérêt, donc un large panel.
Vous confirmez que la collecte est importante en ce moment sur ces produits, les produits structurés?
Exactement, donc c'est une collecte qui a vraiment une très bonne dynamique, et ça on le constate déjà depuis plusieurs années, mais encore plus en 2023. On va dire que 2023, ça a vraiment été l'année des produits structurés. Alors, la principale raison, on la connaît tous, c'est la forte hausse des taux d'intérêt, bien évidemment, qui a un impact positif, effectivement, sur le rendement des produits structurés. En peut-être un chiffre représentatif, en 2023, sur le marché de l'offre au public en France, c'est un marché qui pèse 38 milliards d'euros, donc qui est en hausse de 17%. Par rapport à son niveau de 2022. Et là, on démarre l'année est bien entamée, on est déjà à 11 milliards d'euros de collecte sur 2024.
Mais les meilleures périodes pour investir, donc, c'est quand les taux montent. Là, on va plutôt vers des baisses de taux. Enfin, on finit par se poser la question, mais enfin, a priori, donc ce serait peut-être moins porteur pour les produits structurés si les taux venaient à baisser.
C'est vrai que, de façon naturelle, on peut voir les choses comme ça, mais ce qui est très intéressant sur un produit structuré, finalement, c'est ça. Ce qu'on appelle sa résilience. Parce que, effectivement, en période de hausse des taux, ça va venir doper les rendements. Mais en fait, il y a d'autres paramètres aussi qui vont impacter un produit structuré. C'est notamment, par exemple, la volatilité. Donc, la volatilité des marchés, sur les marchés actions, par exemple. C'est un paramètre qui a fait que, même en période de taux négatifs, comme on a connu ces dernières années, on a des produits structurés qui ont vraiment délivré de très beaux coupons. Je pense notamment au fameux produit autocall sur indice action. d'action qui a délivré et qui continue à délivrer de très beaux rendements pour les investisseurs.
Dessine-moi un produit structuré. Beaucoup de collectes depuis l'an dernier sur les produits structurés. Est-ce que néanmoins, le bémol principal, aucun produit n'est parfait. Est-ce que le bémol principal, c'est quand même les frais ? Les frais sur les produits structurés, bon voilà, c'est pas... Ah, tant mieux pour ceux qui en profitent. Alors, mais
ce sont des produits qui sont margés. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce sont des produits qui vont aller rémunérer tout un écosystème. Le client, en premier lieu, bien évidemment, le distributeur, l'assureur, si on est dans le cadre de l'assurance vie. Et on a une partie prenante supplémentaire, ça va être la banque d'investissement, la banque qui émet le produit structuré, face à qui on va traiter le produit. Donc finalement, un bon produit structuré, ça va être celui qui va réussir finalement à combiner tout ça et puis à répartir de façon équitable la marge entre toutes ces parties prenantes. Alors oui, c'est margé. Après, on a des différences. Un produit à capital garanti sera moins margé qu'un produit à capital protégé. Puis on a quand même une réglementation qui encadre tout ça aujourd'hui. La réglementation PRIPS qui est là pour justement imposer une transparence vis-à-vis des coûts et frais. Puis on constate quand même une course à la réduction des marges vis-à-vis des banques d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus d'intermédiaires aujourd'hui indépendants, comme nous, asset managers, brokers, qui vont vraiment mettre en compétition ces banques en réalisant des appels d'offres massifs dans le marché.
Les fonds de performance absolue, c'est pas encore un peu mieux que les produits structurés ?
Alors, c'est une question pas évidente à répondre. Pour moi, ce sont des produits qui répondent à des besoins qui sont quand même un petit peu différents. Le fonds de performance absolue, ça va chercher vraiment à délivrer une performance quelle que soit la configuration de marché. J'ai envie de dire, on parle souvent de stratégie « all weather ». Sans garantie de capital, pour autant, ni de garantie contractuelle de performance. À l'inverse, un produit structuré, lui, va répondre, j'allais dire, plutôt à un besoin. On est presque dans du sur-mesure. Il répond à un besoin d'un investisseur en termes de performance, de coupons, avec cet affichage contractuel. Donc, on est sur des choses un peu différentes.
Caroline Delangle, pour Fédéral Finance Gestion, merci beaucoup d'être passée nous voir. La pédagogie, toujours la pédagogie dans BFM Bourse, est aujourd'hui consacrée aux produits structurés. Nos intervenants nous apprennent toujours beaucoup de choses. À nous tous, et je vais vous faire une confidence, à moi en premier. Qu'est-ce qu'on en apprend auprès d'eux, grâce à eux ? Et pour moi, il y a une grande leçon. Ah oui, c'est un peu comme à l'école, finalement. C'est très personnel, mais j'apprends et je m'instruis beaucoup auprès de tous nos intervenants de BFM Bourse tout au long de la semaine. Et pour moi, leur leçon de la semaine, c'est qu'on a perdu pied avec la volatilité sur les marchés. On a peut-être perdu nos instruments de mesure habituels et donc on ne connaît pas le véritable état de stress désormais des marchés. C'est Sébastien Corchia qui nous l'a expliqué de façon très pédagogique en l'occurrence. Sébastien Corchia pour Cogefi Gestion, c'était dans la Data Room mardi dernier. Il m'a appris que le VIX, pour mesurer la volatilité, ça ne fonctionne absolument plus. Faut limite plus le regarder. Pourquoi ? Parce que le VIX mesure la volatilité à travers les options à un mois. Or, ce ne sont plus ces options que le marché aujourd'hui utilise, mais les options à une journée. C'est elle qui l'utilise à 50% désormais. Donc l'utilisation du VIX n'est plus le bon baromètre. Le VIX n'est plus le meilleur instrument de mesure de la volatilité des marchés. Il faudrait plutôt regarder la volatilité à 24 heures, puisque ce sont les options à 24 heures que le marché utilise. Sauf qu'à 24 heures, ça ne veut rien dire en fait. Voilà la leçon donc que m'aura appris cette semaine en bourse. Et l'un de nos intervenants, Sébastien Corchia. Vous pouvez retrouver le replay de son intervention d'ailleurs sur notre application BFM Business. C'était mardi dans la Data Room.
Très bien, élève Sommerer. Vous avez bien résumé la leçon de la semaine sur les marchés. Un journaliste qui écoute de si près les marchés, c'est notable. On voit qu'on est dans BFM Bourse. Mais il vous reste beaucoup à découvrir. À vendredi prochain pour la prochaine leçon.
Avec plaisir. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Ben, c'est pas dans BFM Bourse qu'on finit d'apprendre. On en apprend tous les jours grâce à l'ensemble de nos experts. Et chaque vendredi désormais, la leçon de la semaine. Dans un instant, la famille se réunit. On se retrouve dans une minute. Vous pouvez aussi consulter nos articles. Tiens, cet article consacré au changement de recommandation du jour sur le marché sur notre site BFM Bourse. L'article est en ligne et c'est vrai que les changements de recompte ont un gros impact sur un certain nombre de valeurs. N'hésitez pas donc à consulter notre site bfmbourse.com. On se retrouve donc dans une minute. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et la famille qui se réunit chaque jour jusqu'à 17h, les équipes radio-télé de BFM Bourse et BFM Business, et nos équipes web aussi. Sabrina Zadgui est avec nous. Bonjour Sabrina.
Bonjour Guillaume.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Très très bien. Vous aimez le tennis, Sabrina ?
Oui.
Ouh, j'ai senti que... Non, vous n'aimez pas... Là, c'est un oui qui résonne, qui sonne faux. Vous n'aimez pas le tennis.
Vous m'avez percé à jour, Guillaume.
Elle n'en a rien à faire du tennis. Mais vous devrez quand même, et j'espère que vous y prendrez plaisir. Vous devrez quand même, et j'espère que vous y prendrez plaisir. écouter les Sœurs Williams sur BFM Business. C'est en direct à partir de 17h tout à l'heure, une émission spéciale depuis Vivatech. BFM Business est partenaire du salon Vivatech. Les Sœurs Williams, les stars, les icônes du tennis mondial vont s'exprimer sur l'importance, la valeur ajoutée des solutions d'intelligence artificielle pour le sport de haut niveau. Ça va être sans doute très intéressant. Là, on a deux icônes, effectivement, qui vont nous parler d'IA. Il se trouve que plus d'un tiers des financements de la tech dans le sport, plus d'un tiers viennent justement des anciens sportifs, parmi lesquels, désormais, les Sœurs Williams, donc à suivre, à écouter, à regarder en direct tout à l'heure à partir de 17h. BFM Bourse, exceptionnellement, s'arrêtera un peu plus tôt.
Mais c'est pour la bonne cause.
C'est pour la bonne cause et c'est le privilège d'être partenaire d'un grand événement comme Vivatech. Voilà, nos auditeurs et téléspectateurs peuvent, en quasi-exclusivité, donc donner rendez-vous aux Sœurs Williams à partir de 17h tout à l'heure sur l'avenir de l'IA dans le sport et l'avenir du sport par l'intelligence artificielle également. Auparavant, alors on espérait un CAC 40 qui monte au filet aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Il joue en fond de cours, le CAC.
Il joue en fond de cours.
Je l'avais préparé. On perd 0,1% là sur le CAC 40.
0,1%, oui. Bon, on parlait de balle jaune. Bah là, on part d'un CAC rouge sous les 8100 points. En proie au doute sur les futures intentions de la Fed quant à sa politique monétaire. Les dernières statistiques, les minutes déjà... Et les dernières statistiques publiées outre-Atlantique, ça laisse planer le doute sur les intentions de la Fed sur une première baisse de taux. Surtout que les indicateurs d'activité étaient plutôt de très bonne facture. Ah oui. Et le CAC là se dirige vers une deuxième semaine de baisse consécutive. On perd plus d'1% déjà sur la semaine.
Et aujourd'hui, nouveaux indicateurs américains qui vont dans le même sens que ceux d'hier, à savoir une économie. Alors c'est bien, une économie qui cartonne, enfin qui se porte bien. C'est quoi les commandes de biens durables aujourd'hui? Elles étaient attendues en baisse, elles ressortent en hausse. Nouveau signe de résilience. Mmh. Et du coup, on se dit l'inflation va tenir, va se prolonger, va coller, comme on dit. Et donc les baisses de taux de la Fed seront sans doute un peu moindres que ce qu'on espérait jusqu'ici. Voilà, c'est ça le problème des marchés en ce moment. Et donc c'est pour cela que la macro cette semaine a un petit peu glacé l'ambiance malgré des résultats encore positifs.
Époustouflant d'NVIDIA.
Effectivement. Gilles Santacreux avec nous depuis boursicoté.com. Bonjour Gilles. On est ravis de vous retrouver. Alors, c'est Étienne qui insiste beaucoup dessus et il a vraiment raison. Depuis la tour Euronext, il faut quand même relativiser tout ça. Les volumes sur les marchés sont anémiques. Vraiment anémiques. On est encore là sous le milliard ou à peine au milliard d'euros sur le CAC 40 alors qu'on approche de la clôture, Gilles.
Oui, toute cette semaine, il n'y a pas eu énormément de volume et je dirais que c'est plutôt rassurant parce qu'on a un mouvement qui est baissier mais qui n'est pas nourri par une conviction justement alimentée par ces volumes. Et c'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'on n'a pas de grosse attaque baissière et que les cours pourraient remonter. Alors tout à l'heure, je vous entendais parler des Sœurs Williams. Moi, je vais vous poser une question. Le point commun qu'il y a en ce moment entre le CAC 40 et le tennis, justement, c'est... les trous dans la raquette, on en a aussi dans le marché. Magnifique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de gap, puisqu'en fait, en analyse technique, les trous de cotation, ce sont des gaps. Et ce matin, on a eu un gap baissier qui aurait pu nous donner une alerte assez importante en termes de signal technique, qui a été comblé. On reste sous une zone technique à 8092 points qu'il fallait surveiller. C'était l'objectif suite à une rupture des 8145 points. Et on a comblé un autre trou, celui du gap haussier du 8 mai, puisqu'on est venu donc ouvrir au-delà. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'actuellement, nous sommes dans une phase, dans une période où les dividendes ont un gros impact sur l'évolution du CAC 40. Et lorsque l'on regarde ce qui se passe au niveau du CAC 40 GR, le Global Return, on s'aperçoit que ce gap qui s'était ouvert le 8 mai, on ne l'a pas comblé en fait. Ce qui veut dire que ce comblement, il est lié justement au mode de calcul de l'indice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on réintègre les dividendes, on reste dans une dynamique qui est haussière, puisque on est au-dessus de niveaux qui ont confirmé justement cette tendance. Et pour l'instant, même si on a l'impression d'être dans une phase de consolidation, même si graphiquement on est dans une configuration qui nous indique que ça semble fragile. Un, si on prend les volumes. Deux, si on prend les dividendes versés. On se rend compte qu'on est dans une structure qui reste solide et qui nous permet d'espérer encore à une reprise en mouvement haussier. Au niveau de mes algorithmes, on avait détecté justement cette phase de consolidation cette semaine. La probabilité serait d'une reprise en mouvement haussier en milieu de semaine prochaine.
Alors, du côté des valeurs, du côté de celles des actifs, en tout cas, si on élargit, qui se distinguent le plus en termes de potentiel technique, ce qu'il faut surveiller, ce qu'il faut avoir dans le scope et les radars, c'est téléperformance. Vous avez choisi de nous en parler cet après-midi. Pourquoi téléperformance, Gilles?
Eh bien, c'est encore une histoire de gap. On est venu combler un trou de cotation qui s'était ouvert le 7 mars. C'était une zone de résistance qu'il fallait viser à 110 euros. Et depuis, on consolide. Mais on consolide sur des niveaux qui n'invalident pas la poursuite, justement, de ce mouvement. Donc, le fait d'avoir comblé ce gros gap, hein, qui était justement encadré par deux niveaux techniques importants, avec une faible consolidation derrière, si les cours repartent à la hausse, et là, on a un niveau d'invalidation qui n'est pas très loin, qui est à 98 euros. Si on repasse cette zone des 110, eh bien, on pourra avoir un mouvement haussier qui serait assez important et qui pourrait gagner en dynamique, alimenté éventuellement par des rachats de shorts.
Gilles Santacreux, boursicoté.com, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup, Gilles. Et donc, ce regard technique sur les valeurs téléperformance que vous avez repéré, détecté, le CAC 40 dans de faibles volumes, ça vous rassure, parce que c'est vrai que le CAC est baissier sur la semaine, mais comme les volumes sont faibles, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de conviction non plus dans cette baisse. Mais enfin, il perd encore un petit peu de terrain aujourd'hui, le CAC, moins 0,2%, alors que Wall Street, c'est la hausse. Nvidia aussi. Ah, vous nous demandez des nouvelles d'Nvidia d'ailleurs, hein. On voit des questions là qui passent sur nos réseaux sociaux. Et Nvidia, pourquoi n'en parlez-vous pas? D'abord parce qu'on en a beaucoup parlé hier de la publication, beaucoup de replays, du coup, disponibles sur notre application BFM Business pour tout réécouter sur Nvidia, sur les semi-conducteurs aussi, quelle valeur IA privilégiée en bourse. Mais Nvidia aujourd'hui, juste pour en dire un mot supplémentaire, gagne encore un peu de terrain après l'incroyable hausse d'hier, toujours pas de prise de bénéfice. Ah non, vraiment une hausse en ligne droite et ça continue. Nvidia aujourd'hui gagne encore 0,1%. Mine de rien, ça paraît pas grand-chose 0,1%, mais après l'incroyable hausse d'hier, c'est presque un exploit de gagner encore du terrain après une telle hausse. C'est assez ahurissant quand même cette hype autour de Nvidia. Et puis il y a une autre valeur dont il faut qu'on vous parle et vous nous y encouragez aussi. C'est un fidèle auditeur, Jean-François Dancy, qui nous suit, qui nous dit vous parlez pas beaucoup de Vision Group. Et il a raison. Alors on en a un petit peu parlé avec Étienne Braque aux alentours de 16h tout à l'heure. Le replay là aussi est disponible, mais il faut qu'on en parle peut-être un peu plus parce qu'il y a de nouvelles spéculations qui entraînent à la baisse Vision Group. Le titre en ce moment, Vision Group, donc c'est l'ex Solution 30, hein, c'est ça? SES Imagotag. Non, parce qu'il y avait aussi d'énormes spéculations,
exactement,
etc. sur Solution 30.
Même type,
hein. Finit par. Ouais, exactement. C'est l'ex SES Imagotag qui aujourd'hui fait l'objet de nouvelles attaques, figurez-vous, mesdames, messieurs. Et donc Vision Group perd à 5% là, à l'instant, la bourse de Paris.
On était à moins 11 avant que je descende en plateau, hein, parce que voilà, il y a d'autres accusations sur des irrégularités comptables de la part d'un autre fonds. Et ça, c'était un an après donc la première salve, hein, c'était Gotham City qui avait réduit à néant la capitalisation de s'appelait SES Imagotag à l'époque,
hein, oui.
Et le titre avait perdu 60% sur ces mêmes accusations qui ont été entre-temps défendues. SES Imagotag est monté au créneau.
Ils avaient très très bien remonté la pente d'ailleurs. En termes de communication crise et de riposte, c'était assez exemplaire, ouais, effectivement.
Et là, on était revenu sur des plus hauts historiques, là, à plus de 175 euros il y a encore quelques jours. Et donc là, c'est une nouvelle attaque. Donc SES Imagotag, enfin Vision Group, nous a communiqué des éléments de langage nous expliquant tous les détails. Et vous avez aussi un article qui est consacré donc à cette nouvel épisode, hein, qui est publié et disponible sur BFM Bourse.
Effectivement. Ben voilà, vous avez bien fait, Jean-François. Il nous écrit d'Annecy, il nous suit très très régulièrement et on vous suit, vous tous, bien sûr, quand vous nous écrivez. N'hésitez pas. On rebondit aussi en direct à l'antenne, hein. Il y a vraiment de l'interactivité. Vous avez bien fait, Jean-François, de nous alerter sur Vision Group. L'article, lui, est déjà en ligne, donc n'hésitez pas. Voilà, pour en savoir plus, il nous demande vraiment des détails. N'hésitez pas à aller consulter.
Il y a tous les détails.
C'est vous qui l'avez écrit, Sabrina? Ah oui, en plus.
En plus.
Là, voilà, vous remontez vraiment à la source, Jean-François. Donc, n'hésitez pas, bien sûr. Dans un instant, on parlera d'une autre valeur qui se distingue. Mais d'abord, la question du jour. Sur nos réseaux sociaux, vous pouvez vous y abonner. C'est d'ailleurs là aussi, sur notre fil XBFM Bourse, que Jean-François nous a écrit. Et vous pouvez aussi vous abonner pour répondre à cette question qu'on vous pose chaque jour. Aujourd'hui, la question du jour, elle est consacrée à la macroéconomie qui pèse un peu sur les indices cette semaine parce qu'on a de super indicateurs américains. Donc l'inflation qui pourrait résister. Et la question qu'on vous pose, c'est de savoir si, à vos yeux, la Fed baissera ses taux cette année. Une fois, première hypothèse. Mm-hmm. Deux fois, deuxième hypothèse. Ou pas du tout, pas de baisse de taux. Pour vous, Sabrina, vu les indicateurs qu'on a cette semaine, on ira plutôt vers une baisse de taux, deux baisses de taux ou zéro?
Allez, une pour la forme quand même, hein, une baisse de taux. Bon, on le voit avec les différents indicateurs que l'économie américaine résiste, hein, est plutôt résiliente. Hein, les indicateurs d'activité sont toujours en forte hausse. Ce qui ne pousse absolument pas la Fed à vouloir dégainer en premier. Là, ce sera plutôt la BCE, hein, vu ce qui se profile. Donc, et on part quand même... on part sur une hypothèse d'une fois, voire deux fois, mais plutôt une fois. Et on partait quand même d'une hypothèse de six baisses de taux en début d'année. Et là, on est à réduire à une fois, voire zéro fois, hein, comme nous l'indiquent nos internautes.
Mais oui, parce que Sabrina...
Oui.
Voilà la réponse, exactement. Vos réponses, vous voyez les réponses de nos auditeurs et téléspectateurs.
Je triche un peu là.
Effectivement, ce qui viennent ces réponses de s'afficher dans le mur d'image, dans le mur d'image de BFM Business. Si vous nous suivez à la radio, vous vous dites peut-être, ben moi je ne les vois pas les réponses. Mais oui, parce qu'à la télé, vous les verriez. On les voit là dans le mur d'image de BFM Bourse. Effectivement, vos réponses à cette question. Combien de baisses de taux à venir de la Fed cette année, d'ici la fin de l'année, compte tenu des bons indicateurs américains qu'on a eu cette semaine? Ben, vous êtes une majorité à estimer qu'il y aura zéro baisse de taux. Vous êtes une majorité à 50% à estimer que la Fed, finalement, ne baissera pas ses taux cette année. Le marché, le consensus, il voit une baisse de taux. Et vous êtes 42% à avoir voté pour une baisse de taux. Et seulement 8% d'entre vous, seulement 8% pensent qu'il y aura encore deux baisses de taux. Bon, le match reste ouvert. N'hésitez pas, vous tous, à continuer de voter. Et surtout, vous ne le faites pas assez. Je vous le dis, je ne vous gronde pas, mais je vous le dis quand même. Vous ne le faites pas assez. Laissez-nous vos arguments aussi en commentaire. Ce qui est intéressant et important, c'est aussi l'argumentation. Laissez-les-nous en commentaire. Et vous le voyez, on est interactif. On rebondira dessus dans la suite de l'émission.
Ça nourrit la réflexion aussi.
Effectivement, ça nourrit notre réflexion aussi. Tout dépend de vous. Vous qui nous suivez, donc non seulement votez, mais laissez-nous aussi des arguments en commentaire. On le disait, il y a une autre valeur qui se distingue. Alors Vusion Group, aujourd'hui, c'est très compliqué avec cette attaque. Le titre perd 11%, vous avez raison, moins 11% en Vusion Group en ce moment. Puis à l'inverse, parmi les plus fortes hausses, en plus, c'est bien, on est vendredi, on parle un petit peu de sport, de ski, c'est plus la saison,
oui.
Bon, l'été qui arrive. Compagnie des Alpes, publication, perspective, saluée par le marché, le titre Compagnie des Alpes gagne 7% là à l'instant. Ça
je trouvais que parler de Compagnie des Alpes avant le week-end, c'était plutôt bien indiqué. Bon, le nom de cette entreprise, comme ça, de prime abord, ça ne parle pas à grand monde. Mais si j'énonce Parc Astérix, Musée Grévin ou les domaines skiables de Serre Chevalier ou de la Plagne, là je pense que j'éclaire la lanterne de pas mal de personnes. Eh bien, sur la période d'octobre à mars, hein, ce qui correspond au premier semestre pour Compagnie des Alpes, le groupe a publié une hausse de 12% de son chiffre d'affaires à un niveau record de 761 millions d'euros. Alors le groupe a bénéficié d'éléments favorables, la météo a été favorable cet hiver avec un bel enneigement, ce qui a profité donc aux stations de ski exploitées par Compagnie des Alpes. Et le week-end de Pâques est aussi tombé plus tôt cette année, ce qui a permis d'ouvrir un peu plus tôt les parcs d'attractions. Cette hausse de l'activité s'est aussi accompagnée d'une progression de la rentabilité. Et le groupe a aussi indiqué avoir réduit sa facture d'électricité assez significativement.
Oui, et ça c'est important, la facture d'électricité, oui, effectivement, par les temps qui courent. Alors, autre bonne nouvelle, du coup, le groupe Compagnie des Alpes relève ses perspectives de rentabilité.
Et oui, Compagnie des Alpes vise 350 millions d'euros pour son indicateur privilégié de rentabilité. C'est une croissance de 15%, là où le groupe visait une croissance de 7%, donc un indicateur de rentabilité de 325 millions d'euros auparavant. La société espère que les conditions météorologiques, d'exploitation seront identiques à celles des seconds semestres des années précédentes et que la fréquentation de ces parcs sera toujours au rendez-vous malgré les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris.
Effectivement, c'est donc ce titre qui se distingue à la hausse aujourd'hui et vous y consacrez aussi un article. C'est vous qui l'avez écrit aussi, Sabrina.
Aussi.
Bah dites donc, ça chauffe pas BFM Bourse,
non,
le site.
Ça chauffe pas. Voilà, je fais les hausses et les baisses.
Ouais, exactement, on est complet, toujours complet. Et donc cet article est disponible aussi, consacré à Compagnie des Alpes, sur notre site BFM Bourse. Le CAC 40 est en repli en ce moment de 0,2%. Tout à l'heure, dans Valeur ajoutée, Diane Bruno nous proposait une valeur sur laquelle elle est à l'achat. Diane Bruno pour Eleva Capital. Le replay est disponible lui aussi sur notre application. N'hésitez pas à consulter. On a sonné à la porte, je crois.
Oui, je confirme.
Regardez qui est là. Kevin, c'est Kevin Tauzet de Carmignac qui est là. Bah, c'est vendredi, venez Kevin. C'est vendredi, c'est déjà un peu le week-end. N'hésitez pas à passer nous voir. La porte vous est ouverte, la porte de l'appartement. Et tous les copains sont les bienvenus. Kevin, bienvenue. On est ravis de vous retrouver. Vous allez bien ?
Bonjour.
Bonjour Kevin.
C'est déjà un peu le week-end, voilà. Alors du coup, comme on est vendredi après-midi, on peut peut-être en profiter, Kevin. Et si vous le voulez bien, se parler un petit peu plus librement que d'habitude.
Oui.
Se confier, c'est jouable ?
C'est possible.
Il ne le dit pas très fort, hein, pour ceux qui nous
c'est
suivent
possible.
La radio.
Ouais,
ah voilà.
Kevin, c'est le printemps. En plus, il paraît qu'il va faire beau ce week-end, en tout cas demain. Ça va changer des dernières semaines, vous me direz. C'est le printemps. Est-ce qu'en bourse aussi, tout compte fait, tout va bien ?
Alors, en bourse, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, d'un point de vue économique, je trouve que le contexte s'y prête. Hein, comme vous le disiez, le printemps, il fait beau, un bon week-end. Et si tout allait bien, c'est une éventualité qu'il faut considérer, je crois. Si on regarde la croissance américaine, par exemple, hein, les indicateurs coïncidents nous disent que voilà, la trajectoire de croissance est de 3,5% de croissance du PIB. Là, en ce moment, aux États-Unis, hein, on a eu des chiffres manufacturiers qui étaient bien dans l'orienté, qui montrent qu'on sort du territoire récessionniste. On repasse en territoire expansionniste. Certaines mesures, hein, voilà, la production future, là aussi, tente à montrer vers une, on va vers une croissance supérieure à 2%. En zone euro aussi, hein, on nous avait prédit encore une fois l'orage. Eh bien, la croissance, l'année prochaine, elle sera deux fois plus élevée que ce qu'elle est cette année. Oui. Et puis, on parlait des vacances, hein, les pays Club Med, hein, du sud de l'Europe, en Espagne. Voilà, on a les chiffres de croissance du PIB aussi. 0,7 de croissance sur le premier trimestre. C'est 2,5 de croissance en rythme annualisé. Et puis la Chine, qui semble là aussi, enfin, adresser en tout cas certains de ses problèmes structurels liés à l'immobilier. Mais voilà, on voit un déport vers l'activité industrielle, les exportations et puis les prémices d'un début de résolution du problème sur le front immobilier.
Donc, en vous écoutant, à vous écouter, on se dit tout va bien. Combien de temps ce beau temps peut-il encore tenir en bourse et sur la macroéconomie ?
Alors, combien de temps est-ce que ça peut durer ? C'est la question. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a, on va dire, le fameux put du banquier central, le put de Powell, qui pourra baisser les taux d'intérêt si jamais la conjoncture venait à se dégrader, si le beau temps tournait à l'orage. Je crois qu'on a aussi le put de Madame Yellen, qui se refuse à, on va dire, émettre de la duration, à émettre des obligations longues. Hein. Tout ça, c'est émis sur des marchés monétaires. Ça, je pense que ça peut prolonger, en tout cas, ce beau temps. En Europe, là aussi, hein, les baisses de taux, elles vont arriver plus vite qu'ailleurs, en tout cas plus vite qu'ailleurs dans le monde développé. Et ça va aussi avoir une incidence, et une incidence relativement rapide sur la croissance européenne. Pourquoi ? Parce que on a une maturité des instruments de dette émis par le secteur privé, corporate, qui est plus courte qu'ailleurs, de l'ordre de 5 à 6 années. On a aussi beaucoup de taux variables dans les marchés immobiliers, et notamment les marchés immobiliers, là aussi dans le sud de l'Europe. Et donc, une baisse de taux d'intérêt, une baisse de taux de politique monétaire, ça se retrouve très vite dans la croissance économique.
C'est la famille là, qui est réunie, vous n'allez pas vous en sortir si facilement, Kevin. Sabrina vous interroge.
Et oui, et comment, on parle quand même aux investisseurs particuliers, et comment dans ce contexte, on arrive à gérer, à piloter son portefeuille dans ce contexte-là ?
Avoir du risque, en tout cas un moteur de performance ou plusieurs moteurs de performance aujourd'hui, je crois que ça fait du sens. Des actions en premier lieu, hein. Donc comment est-ce qu'on fait pour ménager la chèvre-échoue, avoir des actions d'un côté et en même temps intégrer que cette embellie du point de vue économique, elle se reflète aussi dans le prix de certains actifs. Je crois que ce qu'on qualifie d'action de qualité qui donne de la visibilité, on est là pour se dire les choses, on ne va pas bouder son plaisir. On a des leaders mondiaux, il n'y a pas que Nvidia dans le monde. Il y a des leaders mondiaux en Europe aussi. Nvidia, ça fait sans doute du sens aussi. On voit la trajectoire de performance et des résultats qui sont battus trimestre après trimestre. Les marchés du crédit aussi, alors ils sont renchéris, mais on va dire le rendement à un moment T, c'est quand même, on va dire, un indicateur qui a plutôt fonctionné sur la trajectoire future de ces marchés-là. Et on arrive, sur les marchés du crédit, à avoir des rendements embarqués qui sont tout à fait acceptables, 5, oui. 6, 7, 8%.
Bon, c'est intéressant. Et puis, on a un équilibre des performances de marché un peu meilleur aujourd'hui qu'il y a 3-4 mois, par exemple. On voit davantage de valeurs participer à la hausse des marchés qu'en 2023. C'est plutôt sain aussi. La hausse des marchés ne dépend pas d'une ou deux valeurs seulement. D'ailleurs, on a vu hier, finalement, la faible influence, ça nous a tous surpris, d'Nvidia sur la tendance globale des indices. Nvidia s'est envolée à la hausse, mais les indices, eux, n'ont pas profité d'Nvidia parce qu'il y avait d'autres considérations. Donc, c'est quand même le signe aussi d'un rééquilibrage global du marché. C'est plutôt positif. Tout ça, c'est plutôt favorable. Mais je vais vous le dire franchement, Kevin, vous me confortez quand même dans une impression qui s'installe en moi de plus en plus. Vous voulez savoir laquelle ?
Dites-moi.
J'ai l'impression qu'il est interdit d'être pessimiste en bourse désormais. Non, mais même les stratèges américains d'habitude les plus pessimistes, même eux deviennent désormais optimistes. Alors que, franchement, tout n'est pas rose. D'accord, on est vendredi, c'est le week-end. Mais il y a quand même la géopolitique, c'est pas rose. La concentration des indices sur un certain nombre de rares valeurs, même si ça s'améliore un peu, là, on a quand même encore une hyper-concentration. Les taux aussi, qui peut-être ne baisseront pas autant que le marché espère. Tout ça, c'est des réalités, mais il est interdit d'être pessimiste. Et vous-même, j'ai l'impression que vous êtes super... Enfin, je sais pas. Il y a encore une notion de risque aujourd'hui dans le marché.
Alors, la question, ou en tout cas, le message qu'on essaie de véhiculer aujourd'hui, c'est que aujourd'hui tout va bien. Et comme vous le soulignez, ou comme on en parlait à l'instant, c'est un environnement qui peut durer. Après, la question à laquelle je souhaiterais répondre, Guillaume, c'est est-ce que c'est pérenne ? Alors là, sans doute qu'on commence à toucher des points un peu plus sensibles. Pourquoi est-ce que ça allait moins ? Et vous parlez des baisses de taux, on parlait de l'inflation. Parce parce que cette année, cette décennie 2020, elle a quand même été caractérisée par une remontée de l'endettement et une remontée de l'endettement public. Hein. Dans les années 90, on avait vu quand même, voilà, les gains de productivité liés à Internet, à l'informatique, sauver le cycle. Dans les années 2000, là, pour le coup, on a vu voilà, les excès de l'endettement privé, hein, des particuliers, des entreprises. Les années 2010, c'était plutôt l'inverse, hein, le désendettement, hein, on se souvient de Lehman, l'orthodoxie budgétaire des pays émergents. Et 2020, ben, voilà, il y a eu un vrai rattrapage, un rééquilibrage post-Covid, mais ça s'est fait avec des déficits toujours grandissants et des émissions de dette toujours plus importantes. Mmh. Donc si je reprends ces trois grands blocs économiques auxquels je faisais allusion tout à l'heure, ben, aux États-Unis, il y a un vrai risque de dominance budgétaire. Hein. Il y a un vrai risque d'inflation aussi, c'est-à-dire que oui. Si la Réserve fédérale baisse ses taux d'intérêt alors que l'inflation n'est pas encore rentrée dans son tube de dentifrice, eh bien, il y a ce risque-là de voir une inflation plus rémanente, plus persistante et une remontée des taux longs. Et ça, quand on émet autant de dettes que le font les États-Unis, ça peut poser question. Hein. Alors, en Europe aussi, hein, on a nos problèmes. On n'a pas vraiment fait beaucoup de gains de productivité. Hein, voilà, je parlais de l'Espagne tout à l'heure. La croissance potentielle en Espagne, de l'aveu même de la Banque Centrale Espagnole, eh bien, elle n'est pas aussi importante que ce qu'on le pensait. Elle se disait 2% de croissance potentielle, c'est possible avec les fonds du Next Generation EU Fund. En fait, elle a rétro-pédalé. Elle dit plutôt 1,4, 1,5.
Et c'est un vrai problème parce que l'Espagne, c'est un super élève là, depuis 2-3 ans sur l'évolution de ses déficits, ouais. Mais parce qu'ils ont une croissance assez impressionnante, sauf que les choses sont amenées à se dégrader sur la croissance espagnole. Et donc, la gestion des déficits aussi risque de se compliquer pour l'Espagne.
Alors là, si je reprends ce parallèle qu'on faisait aujourd'hui, voilà, l'été va sans doute aider l'Espagne parce qu'il y a beaucoup de tourisme. Hein, c'est un pays qui fonctionne grâce au tourisme aussi. Mais c'est vrai que voilà, un horizon un peu plus long terme, c'est quelque chose qui pourrait se dégrader. Et puis la Chine, hein, l'éléphant dans la pièce ou le panda géant dans la pièce. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait se passer en Chine? Eh bien, en Chine, on l'a dit, il y a un rééquilibrage vers des exportations qui sont en forte croissance. Hein, 10% par an, 7 millions de véhicules chinois qui sont exportés tous les ans. Mais ça se fait avec, on va dire, une forme de subvention, hein, faite par l'État chinois. Je ne suis pas sûr que ça passe très bien auprès, on va dire, des gouvernements américains, européens. Et on voit voilà, les tarifs, la menace des tarifs douaniers refaire surface.
Intéressante synthèse là, que vous nous proposez aujourd'hui, Kevin Tauzet, Carmignac Gestion, régulièrement à nos côtés. Une synthèse, effectivement, des risques et des opportunités qui s'offrent encore au marché. À retrouver votre propos, bien sûr, dans un instant aussi en replay. Il nous reste 2 minutes à passer tous ensemble en famille. Vous aimez le tennis, Kevin, ou pas?
Oui.
C'est un vrai oui, parce que Sabrina disait, c'est semblant de dire oui. Alors, ne pensez pas, vous aimez bien.
Si vous me proposez un quiz, je pense que vous allez mettre en porte à vos Guillaume.
Moi, je vous pose la question parce que dans un instant, les Sir Williams seront sur BFM Business en direct. Ouais. Mmh. Depuis Vivatech, hein, BFM Business, partenaire de Vivatech, et on pourra écouter les Sir Williams qui vont parler de quoi? D'intelligence artificielle dans le sport de haut niveau. Impressionnant, ouais, effectivement. Elles-mêmes, d'ailleurs, font partie des financeurs de la tech aux États-Unis dans le sport. Donc, dans un instant, les Sir Williams, ça sera sans doute très, très instructif. Auparavant, un dernier moment en famille, ensemble.
Entre
nous. C'est ce chiffre qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, c'est sur le cuivre. Peut-être les cours du cuivre, c'est Endurant qui est une société de trading sur les matières premières qui voit le cuivre, pourquoi pas, toucher de nouveaux plus hauts historiques, mais alors vraiment beaucoup plus haut, sur des cours peut-être 4 fois plus élevés que le cours actuel. Peut-être un cours du cuivre pour une tonne de cuivre à 40 000 dollars à l'avenir.
Ah bah oui, parce que bon, c'est le métal phare de la transition énergétique et aussi on a besoin du cuivre hein, pour les data centers avec le boom de l'IA. Alors 40 000 dollars, c'est dans plusieurs années, hein, mais on a Goldman Sachs qui avait relevé ses prévisions début mai et établi sur un cours de 12 000 dollars la tonne d'ici la fin de l'année, avant 15 000 dollars la tonne sur l'ensemble de 2025. Mais aussi, il y a l'aluminium qui pourrait suivre le mouvement parce que le cuivre peut se substituer exactement à au cuivre plutôt.
Le quoi?
L'aluminium, on peut remplacer se substituer le cuivre ah oui, c'est ça. À part l'aluminium, voilà.
Oui, il y a un gap. Enfin, le cours de l'aluminium est 4 fois inférieur à celui du cuivre. Là, c'est un signal peut-être de potentiel du coup sur l'aluminium. C'est ce qu'on se dit. Ouais, c'est votre point de vue aussi, Kevin?
Oui, enfin, je sais que je crois qu'il y a une tendance très forte sur le front de la demande. Hein. Dans les économies développées, on a assisté à une baisse de la consommation électrique parce que la transition, parce qu'on fait mieux. Sur les 5-10 années à venir, la consommation électrique dans les pays développés, elle va réaccélérer à cause des data centers et puis à l'offre. et l'offre. Mmh. Ben, pour construire une mine de cuivre, il y a 10 ans, ça prenait 5 ans. Aujourd'hui, il y a les nouvelles normes, ça en prend une fois et demie à deux fois plus.
Et puis on oublie aussi beaucoup dans la demande électrique la remilitarisation d'un certain nombre d'industries. Ça aussi, ça consomme pas mal d'électricité, mine de rien. Et ça participe effectivement des besoins électriques. Merci beaucoup, Kevin Tauzé, pour Carmignac nous accompagner. Sabrina Salgui, la famille BFM Bourse.
Merci Guillaume.
À lundi pour de nouvelles aventures. Très bon week-end à tous. Exceptionnellement, BFM Business est bien sûr ouvert, mais pas BFM Bourse. Là, on part en week-end.
On ferme boutique.
Un petit peu plus tôt que d'habitude, une heure plus tôt que d'habitude, puisque les Sir Williams, dans un instant, vont s'exprimer. Et on vous propose donc sur BFM Business une spéciale sport business avec Sandra Gandouin et la prise de parole donc des Sir Williams sur l'intelligence artificielle. Oui, elles parleront d'IA dans le sport. C'est à vivre juste après la pause, dans deux minutes. A tout de suite, bonne soirée, bon week-end à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.